Donc je vais commencer par rappeler où j'étais, ce que j'avais fait la semaine passée. Donc j'avais reformulé la gravitation dans le formalisme hamiltonien en termes des variables d'Iwasawa. Donc j'avais séparé les variables qui décrivent les champs, donc le champ Isar, ah, il manque quelque chose, Iwasawa. Donc j'avais séparé les champs en deux groupes. Il y avait d'une part, disons, les variables, les facteurs d'échelle. Alors quand je parle de facteurs d'échelle, c'est réellement les facteurs d'échelle logarithmiques associés à la métrique, donc qui disent comment les distances se comportent selon les différentes directions. Donc il y a autant de facteurs d'échelle logarithmiques qu'il y a de directions indépendantes. Donc A va de 1 à D. Et puis s'il y a des dilatons, on met aussi les dilatons. Alors j'en ai mis qu'un ici, mais il pourrait y en avoir plusieurs ou pas du tout. Et donc mu, bêta mu, ça représente toutes ces variables. Et à côté de ces variables, on a aussi, puisqu'on est en formulation hamiltonienne, les moments conjugués. Donc c'est à la fois les moments conjugués, bon, donc c'est le moment conjugué. Alors ces facteurs d'échelle logarithmique, y compris le dilaton, je les appelle parfois les variables diagonales. On comprendra plus tard pourquoi. Donc, je me référerai parfois à ces variables comme étant les variables diagonales. Et alors, à côté de ça, on a les variables non diagonales, qui sont les composantes non diagonales de la métrique, qui étaient paramétrisées par cette matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale NAI, donc une matrice nilpotente, leur moment conjugué. Et puis, j'inclus dans toutes les variables non diagonales, donc quand je parlerai de variables non diagonales, c'est non seulement les variables non diagonales, les composantes non diagonales de la métrique et leur moment conjugué, mais aussi les composantes des P-formes. Et donc, j'ai une collection de P-formes, ça dépend de la théorie, et leur moment conjugué, qui sont en fait les champs électriques correspondants. Donc toutes ces variables-là, c'est les variables non diagonales, et ce sont toutes les variables qui décrivent la métrique, bêta A, NAI et les moments conjugués, le dilaton, et le moment conjugué est inclus là, et les P-formes. Alors on a vu que le hamiltonien était donné par N tilde H, où N tilde, c'est ce que j'ai appelé le laps redimensionné. Donc c'est égal au laps standard divisé par racine de G, où G est la métrique spatiale. Et donc ça veut dire que dx0, la coordonnée temporelle n'est pas nécessairement le temps propre, ça dépend du choix de n tilde. C'est en fait donc moins 1 sur n, de manière générale, hein, dt, où t est le temps propre, et puis n, on le remplace, c'est racine de G, n tilde. Et j'ai mis le signe moins parce que traditionnellement, on examine la singularité, on suppose que la singularité est une singularité initiale, donc en t égale à 0, donc t prend des valeurs supérieures à 0, et quand on analyse la singularité, ça veut dire qu'on fait tendre t vers 0 par valeur supérieure, donc t décroît, c'est plus commode d'avoir une variable qui croît, donc en mettant un signe moins ici, x0 croît quand t décroît. Et en fait, on verra qu'on va choisir le laps ou le laps redimensionné de telle sorte que x0 tend vers plus l'infini quand t tend vers 0 par valeur supérieure. Bon, ça, évidemment, ça dépend du choix. Ça, on ne le sait pas encore, mais on choisira le laps comme ça, ce qui revient à mettre la singularité dans le futur, à l'infini futur pour x0. Alors, je vous ai dit ce que c'était que n tilde. On avait aussi une expression pour h. Alors H, je ne sais pas si vous pouvez voir partout, où il y a peut-être une ligne en dessous de laquelle je ne peux pas descendre. Oui, vous pouvez voir. Donc H, en fait, ben, a une partie cinétique, quadratique, en les moments conjugués des variables diagonales, que j'avais écrite, bon, le facteur 1 quart n'est pas très profond. J'ai mu nu, pi mu, pi nu. Et puis, il y a un terme de potentiel. Alors, écrivons d'abord la partie cinétique parce qu'elle va jouer un rôle important. Donc, je vous rappelle, en fait, on avait dérivé l'expression. J'ai mu nu, pi nu, c'est somme des pi des moments conjugués à carré, donc sur tous les facteurs d'échelle, moins, donc ça c'est la supermétrique de 2,8, enfin l'inverse, 1 sur d moins 1, somme des pi a, enfin, pardon, pi a, enfin, peu importe, mais je préfère les pi a carré, plus p phi carré. Donc c'est la métrique inverse de la supermétrique de 2,8, qui elle donc s'est écrite en termes des variables bêta, des bêta nu. C'est égal à 1, pardon, somme des bêta a au carré, donc somme de 1 à d, moins somme des d bêta a carré, plus des phi carré. Donc ceci nous décrit complètement la partie cinétique. Et à côté de ça, on a le potentiel, qui lui-même est une somme de plusieurs termes. C'est intéressant de décomposer. Donc il y a une contribution qu'on appelle parfois centrifuge ou symétrique, potentiel qui est lié aux variables non diagonales associées à la métrique et qui contient aussi leur moment conjugué. On a la partie qu'on appelle gravitationnelle qui contient la courbure spatiale, et puis on a la contribution des p-formes. Et puis on a aussi un potentiel lié au dilaton, et donc je vais écrire séparément tous les termes. Et en fait, ils ont tous une structure semblable. Alors le potentiel de symétrie, qu'on appelle aussi potentiel centrifuge, c'est une exponentielle d'une forme linéaire en les bêta, qui est la forme linéaire suivante, fois un coefficient dont l'expression explicite ne m'intéresse pas, qui est positif et qui en fait dépend des n et des p. J'avais écrit explicitement, mais peu importe son expression. Donc l'important est que c'est un coefficient positif. Alors on appelle ça centrifuge parce qu'en fait c'est ce qui vient, en fait ça contient les carrés de ces moments conjugués là, des termes non diagonaux. Et donc ça induit un potentiel pour les parties diagonales. Alors en fait tous les potentiels liés à la p-forme liée au dilaton ont cette même structure. Le potentiel gravitationnel est un peu plus compliqué, mais on verra qu'à la limite Becquerel il a aussi cette même structure. C'est-à-dire, alors quelle est cette structure? C'est l'exponentielle d'une forme linéaire en les facteurs d'échelle logarithmique. Donc, il y a une partie électrique, une partie magnétique. Donc, dans tous les cas, on a quelque chose. Donc, je vais écrire la partie électrique d'abord. Eh bien, à nouveau, elle a la même forme. Donc, c'est une somme sur tous les indices. Puis, il y a un facteur. Bon, le facteur, on va voir qu'il n'est pas très important parce qu'on va l'absorber, en tout cas, à la limite BKL. Il est important pour lorsqu'on va chercher à comprendre mieux la symétrie. Mais pour le moment, ce facteur est absorbable, comme on le verra. Et donc l'idée, le point important, c'est qu'on a à nouveau une forme linéaire en les bêta, en les facteurs d'échelle, mais c'est une différente. Bon, ça, chaque p-forme apporte ses formes linéaires qui dépendent de la p-forme et du couplage au dilaton en général. Donc la forme linéaire ici en les bêta, je l'ai appelée E. Bon, il dépend des indices qu'on a choisis. Donc, c'est une forme linéaire en les bêta que je vais écrire tout de suite. Il faut un certain coefficient qui est à nouveau positif. Alors, les formes linéaires, je vais les écrire à côté. Mais je vais vous dire tout de suite ce que vaut E. Alors, E à 1 à P, bon, c'est assez facile, c'est juste la somme. Tout d'abord, les indices sont distincts. Ça, c'est distinct parce que c'est antisymétrique. Donc, on ne peut pas avoir deux fois le même indice. Donc, c'est toujours sous-entendu. Les A1, A2, etc. sont tous distincts. Et c'est juste la somme des bêta correspondants. Donc, c'est bien une forme linéaire en les bêta. Plus un terme qui est aussi linéaire en le dilaton, mais qui va dépendre du couplage de la p-forme, donc lambda p, au dilaton. Et puis on aura pareil la partie magnétique. Bon, alors le champ magnétique, il a un indice de plus. Donc à nouveau, ça va être une somme, cette fois-ci sur P plus 1 indice, d'une autre forme linéaire que j'ai appelée magnétique A1 à P plus 1, M bêta. Et ici, le coefficient, c'est le champ magnétique au carré. Donc je ne vais pas écrire les indices. Mais à nouveau, c'est les mêmes indices. Hein. À nouveau, c'est un coefficient qui est strictement positif ou à la rigueur nul si tous les champs magnétiques sont nuls. Et l'intéressant, c'est de voir à quoi ressemble cette forme linéaire. Donc il y a P plus un indice. Et bien là, on somme. À nouveau, c'est complètement antisymétrique, donc tous les indices sont distincts. B ne peut pas appartenir à l'ensemble A1 à P plus 1, donc on somme sur le complémentaire tous les bêta. Donc c'est une sorte de forme linéaire complémentaire, et le dilaton apparaît, mais avec le coefficient opposé. Donc je vous ai dit ce que c'est ceci, je vous ai dit ce que c'est ça. Alors Vφ, bon Vφ a une structure analogue, mais donc je vais l'écrire tout de suite. Somme sur A de E moins 2 mu A de bêta pour un coefficient qui est aussi positif, en fait, c'est réellement le champ magnétique correspondant au dilaton. Et mu A, ben, c'est une expression semblable à ça. Enfin, en fait, la partie magnétique. Hein. Somme sur C différent de A, donc, des bêta C. Donc on les somme tous, sauf un qu'on retient. Et alors, il y a un terme qui est plus compliqué, donc ça vous donne ceci, qui est le terme gravitationnel. Parce que, bon, vous voyez que Vp est strictement positif, Vφ est strictement positif, ou éventuellement nul, à nouveau, si ça contient les gradients du dilaton, si le dilaton est nul. Vs est aussi strictement positif, je vous avais écrit l'expression la semaine passée explicitement de FAB. Et le fait que Vp et Vφ soient strictement positifs, ça reflète simplement la positivité de l'énergie. T0,0 est positif. Le fait que Vs soit positif, c'est parce qu'on a vu que la supermétrique de 2,8, donc dans l'espace des métriques, elle a un signe moins, et ce signe moins, ben, il apparaît dans G mu nu, et puis tout le reste est positif. Et tout le reste, ça contient les autres pi mu, mais ça contient aussi la partie cinétique là. Donc c'est aussi positif, c'est lié à la signature de la supermétrique de 2,8. Par contre, le terme Vg, lui, est un peu plus compliqué. Alors Vg, donc, sans faire aucune simplification, c'est moins g fois la courbure spatiale. Et en général, la courbure spatiale n'a aucune raison d'être positive ou nulle. Mais si on fait le développement, ça prend la structure suivante. Un terme intéressant, je ne sais pas s'il y a un signe moins d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai écrit. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de signe moins là ? Il y a un signe moins, c'est dans mes notes ici, j'ai oublié le signe moins. Donc il y a un signe moins, et puis, en fait, si on déballe, on voit qu'il y a deux types de contributions. Il y a des contributions qui ont exactement la même forme, et ça c'est intéressant. Donc des formes linéaires A, B, C de bêta, que je vais donner dans un instant. Donc où on somme, je mets somme prime, ça veut dire qu'on somme sur tous les indices ABC, mais distincts. Donc on peut pas. Les indices ABC sont différents. Il y a un certain coefficient, mais donc ici ça apparaît, il y a un coefficient qui dépend des champs non diagonaux, qui est strictement positif, et un facteur 4. Donc en fait, c'est les constantes de structure dans la base d'Iwasawa, qui n'est pas une base holonome, au carré. Donc ça c'est un terme. Donc ça c'est en fait un terme agréable. Mais alors après, on a un terme qui est moins agréable parce qu'il vient avec un signe non contrôlé. Mais on va voir que ce n'est pas grave parce qu'il est négligeable à la limite. Donc un coefficient que je n'écris pas au carré parce qu'il peut être positif, il peut être négatif, qui dépend des variables non diagonales et en fait qui dépend aussi des gradients, mais polynomialement, des gradients des variables d'échelle. Il n'y a pas d'exponentielle, donc qui va être négligeable vis-à-vis des exponentielles. Et c'est le même exposant pour le dilaton. Et alors, je ne vous ai pas dit encore ce que vaut cette forme linéaire. Alors, alpha ABC, donc c'est défini uniquement quand A est différent de B, A est différent de C et B est différent de C, donc les indices sont distincts. Ces deux bêta A plus somme E différent de A, différent de B, différent de C, des bêta E. Donc par exemple, si vous êtes à 4 dimensions d'espace-temps, ça veut dire 3 dimensions d'espace, ben, vous avez par exemple alpha 1, 2, 3, les indices doivent être différents, ben, c'est juste 2 bêta 1, et il n'y a pas de terme comme ça, puisque ce n'est pas possible d'être différent de 1, de 2 et de 3 quand il n'y a que 3 dimensions. Mais à 4 plus 1 dimension, donc 5 dimensions d'espace-temps, dans ce cas-là, on aura des termes de la forme, par exemple, 2 bêta 1 plus bêta 2. Si je prends par exemple 1, 2, 3, ben ce sera 2 bêta 1 plus bêta 4. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est un calcul. Hein. Donc je ne le reproduis pas ici, c'est assez lourd, ça prend du temps, mais c'est direct. C'est conceptuellement absolument direct. Et jusqu'à présent, évidemment, je ne vous ai pas dit ici dedans les coefficients, mais donc jusqu'à présent, je n'ai fait aucune simplification. Mais vous voyez apparaître une structure intéressante, c'est que tous les potentiels, c'est des exponentielles de forme linéaire en les bêta incluant le dilaton, ou les dilatons, s'il y en a plusieurs, fois des coefficients qui sont manifestement positifs, sauf pour la courbure, où il y a un terme un peu plus compliqué. Bien. Alors, à côté de l'hamiltonien, on a aussi les contraintes. On a la contrainte hamiltonienne qui nous dit que le H ici est égal à 0. Et puis on a les contraintes qui viennent du fait que le shift, je l'ai fixé égal à 0, mais en principe, il y a des équations qui sont obtenues en variant par rapport au shift, qui sont ce qu'on appelle les contraintes de supermoment. Et puis on a aussi, j'ai annulé les composantes temporelles des potentiels vecteurs, mais elles impliquent la loi de Gauss, donc il faut aussi tenir compte de la loi de Gauss. Mais je ne vais pas les écrire explicitement parce que, bon, à part celle ici qui va être importante, H égale à 0, les autres, on les voit comme c'est des contraintes sur les conditions initiales, essentiellement sur les variables non diagonales, et donc elles jouent un rôle, disons, moins important. Elles sont importantes quand on compte le nombre de fonctions indépendantes, mais c'est à peu près le seul endroit où on en a réellement besoin. Alors, dans ces variables, la solution de Kastner, et j'avais terminé par cela la fois passée. La solution de Kastner prend une signification géométrique intéressante. Donc la solution de Kastner, elle s'obtient en laissant tomber le potentiel. Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de forme. Et que les gradients spatiaux sont négligeables, donc on laisse tomber les potentiels, et je vais aussi regarder Kastner diagonale, donc je laisse tomber les termes non diagonaux. Donc la solution de Kastner, c'est la solution contrôlée par ce que je vais appeler le H0, appelons ça le hamiltonien libre. Ou H0, c'est donc juste la partie quadratique en les moments. Mais qui doit être. Il y a une équation qui dit que ça doit être égal à 0. Donc, ça, c'est la solution de Kastner, elle est contrôlée par ça, mais ça, c'est juste. La métrique ici, elle est plate, je l'avais dit, enfin, on le voit d'ailleurs ici, hein, tous les coefficients sont constants. Donc, la métrique est plate, et donc ça, ben, c'est le hamiltonien pour une particule relativiste se déplaçant dans l'espace des facteurs d'échelle, qui est un espace comme l'espace de Minkowski. Il est signature moins, plus, plus, plus. Donc, il y a un cône de lumière en chaque point. Donc ça, je vais mettre celui qui passe par l'origine, disons. Dans la métrique G mu, et ce cône de lumière possède deux parties, deux nappes. Donc ça, c'est à l'intérieur du cône de lumière passant par l'origine. G mu est négatif. Donc ça, c'est à l'intérieur. Le cône de lumière, c'est juste ça égal à 0. Et il est négatif ici aussi. Mais la différence, c'est que là, le temps est positif et là, le temps est négatif. Alors, le temps, ce n'est pas la première composante bêta 0. C'est un peu plus compliqué. Hein. Vous voyez que ça, c'est une métrique qui est équivalente à la métrique de Minkowski, mais que je n'ai pas écrite dans des coordonnées minkowskiennes. On a vu que la direction de genre temps, en fait, c'était le volume. Donc, c'est la somme des bêta i est positive ici. Est positive. Et là, la somme des bêta i est négative. Ça, on a vu que c'était une coordonnée temporelle. Et donc, la solution de Kastner est simplement une géodésique dans la métrique plate, c'est-à-dire une ligne droite, qui, à cause de la contrainte ici, doit être de genre lumière. Et donc, typiquement, on aura quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une solution de Kastner, une autre ligne droite de lumière, une autre solution de Kastner. Et en fait, si j'écris les bêta mu, ils vont donc varier. Donc si je prends n tilde égale à 1, ça va être un paramètre affine pour les géodésiques. Et donc, dans ce cas-là, si tau est le paramètre correspondant à n tilde égale à 1, bêta mu va être linéaire en tau plus les conditions initiales. Et le vecteur v mu doit être de genre lumière à cause de cette condition. Et on peut voir que la condition que v mu soit de genre lumière, c'est équivalent à la condition de Kastner, parce qu'en fait, les v mu, à un facteur de proportionnalité près, c'est les exposants de Kastner. Et donc, on peut voir que la condition qui soit que la somme des carrés des exposants de Kastner soit la même que la somme des exposants de Kastner au carré, c'est en fait juste cette condition-ci. Bien. Alors, on a soit cette description dans l'espace des facteurs d'échelle, qui a l'avantage d'être un espace vectoriel, c'est une structure linéaire, on a une métrique qui est la métrique plate. Mais c'est aussi intéressant, et je vais passer très souvent d'une description à l'autre, sans être d'ailleurs toujours très précis sur quelle description j'utilise, c'est aussi intéressant de projeter le mouvement sur l'hyperboloïde unité, même sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde unité. Pourquoi ? Parce que je suis intéressé vers la limite où x0 tend vers l'infini, où on va vers le futur. Pardon. Et donc, je vais projeter... Et pourquoi je projette ? Mais parce qu'à cause de la contrainte, tous les facteurs d'échelle ne sont pas indépendants. C'est comme la description d'une particule relativiste. Vous avez, dans la description covariante, x0, x1, x2, x3, mais vous savez qu'il y a des contraintes qui disent qu'en fait, les vraies variables indépendantes, c'est par exemple x1, x2, x3. Mais ici, c'est pareil. On a inclus le temps dans le système. Et donc, il est parfois bon de projeter les choses... donc éliminer une variable, et la projection la plus naturelle, et on va voir que c'est une bonne description, c'est sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde unité. Donc je vais considérer l'hyperboloïde unité et je vais projeter radialement. Donc je vais écrire que bêta mu c'est rho gamma mu, ou gamma mu gamma mu, donc j'abaisse et j'élève les indices à l'aide de la métrique plate grand G mu nu, c'est moins 1. Donc c'est des variables contraintes qui sont des coordonnées sur l'hyperboloïde, donc on peut résoudre ça et introduire des angles, en fait. Il y aura un angle hyperbolique et puis des angles normaux. Et donc c'est pas... Et puis il y a rho, qui est la coordonnée radiale. Et donc, on projette le mouvement, et donc ça veut dire qu'ici, je projette radialement. Donc là, je projette. Donc, je vais avoir un mouvement qui est sur l'hyperboloïde, projeté. Peut-être que je vais prendre une autre couleur, mais enfin, je pense que c'est assez clair. Et on sait que l'intersection. Donc en fait, ce mouvement projeté va être obtenu en considérant le plan passant par la géodésique et l'origine. Et ce plan va couper l'hyperboloïde selon une géodésique de la métrique hyperbolique. Je vous ai rappelé ça, c'est la même chose qu'en géométrie sphérique. Si vous prenez l'intersection d'un plan passant par l'origine avec la sphère, vous avez un grand cercle, même la définition d'un grand cercle, qui sont les géodésiques. Donc ça, c'est, on a les mêmes propriétés en géométrie hyperbolique, enfin beaucoup de propriétés semblables, pardon, en géométrie hyperbolique, en géométrie sphérique, et je vais utiliser ça, comme vous le verrez, de nombreuses fois. Mais donc, soit on a la description projetée, soit on a la description en termes de droite de lumière dans l'espace de Minkowski. Alors, qu'est-ce que je veux encore dire ? Oui, c'est que la limite, en fait, donc quand on va vers l'infini, qui est réellement la limite qui m'intéresse, rho tend vers l'infini. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la limite où rho tend vers l'infini. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais rappeler ici. Et donc là, maintenant, j'entre en territoire non couvert la semaine passée. Et là, je vais, donc, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune hypothèse de simplification, mais maintenant, je vais prendre la limite BKL. Et on va retrouver la description de BKL expliquée précédemment sans utiliser le formalisme hamiltonien à partir de la limite que je vais prendre ici. Donc, je vais prendre la limite où rho tend vers l'infini. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on peut approcher... Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les V? La réponse est oui. Et prenons par exemple, juste pour comprendre, et puis après ça va être facile, prenons par exemple VS. Donc vous voyez que VS, c'est une somme de termes. Je vais regarder juste un terme dans VS. Enfin, peu importe. Alors je substitue, puisque je vais prendre rho tendant vers l'infini, moins 2 rho, gamma B moins gamma A. Ça, c'est des coordonnées sur l'hyperboloïde, fois un coefficient FAB carré. Je prends un de ces termes et je prends rho tend vers l'infini. Alors, ben, vous voyez que c'est des exponentielles. Et donc, si le coefficient de rho est positif, je vais avoir l'exponentielle de rho fois quelque chose de positif, ça va exploser vers plus l'infini. Mais si le coefficient de rho est négatif, quand je fais tendre rho vers l'infini, ça tend vers zéro. Donc à la limite, mon exponentielle va être de plus en plus comme un mur infini de potentiel. Et donc à la limite, en fait, je vais remplacer ça par, alors je ne sais pas la fonction θ avec un saut 1, mais c'est un mur infini de potentiel. Et je vais écrire ça comme moins 2, j'écris le coefficient gamma b moins gamma a, fois un coefficient FAB carré. Et puis j'ai une somme de tels termes. Hein. Donc chaque exponentielle va me contribuer un tel terme. Alors, les murs infinis de potentiel, c'est clair que si je multiplie par un facteur positif, 5 fois l'infini, c'est l'infini, 5 fois 0, c'est 0. Donc en fait, ce facteur-ci n'est plus très significatif. Donc une fois que je suis passé à la limite, je peux oublier les coefficients, pour autant qu'ils soient non nuls et positifs. Et vous pourriez me dire, ah oui, mais aussi θ de x ou θ de 5x, c'est la même chose, mais pour des raisons qu'on va comprendre plus tard, je vais garder les coefficients. Les normalisations vont avoir un sens plus tard, donc je vais garder les normalisations des formes linéaires. Et donc je vais laisser tomber ça, mais je garde quand même le 2 bêta ici. Et aussi, puisque rho est positif, je vais écrire parfois ceci comme θ de moins 2, selon que j'utilise la description dans l'espace hyperbolique ou dans l'espace ambiant de Minkowski. J'écrirai ça comme θ de moins 2 gamma b moins gamma a, qui soit moins 2 bêta b moins bêta a. Donc la conclusion, on peut justifier ceci mieux. Donc c'est une dérivation un peu heuristique. Et donc la conclusion, c'est que ce terme-ci va être donné par une somme de murs de potentiel à la limite de BKL. Et en fait, la forme particulière de la forme linéaire qui apparaît ne joue pas un rôle très important. Donc on va avoir la même chose pour les murs électriques. Les murs électriques vont donner des fonctions θ de ces formes linéaires. Les murs magnétiques vont donner des fonctions θ de ces formes linéaires. Et pour le mur gravitationnel, on va avoir des fonctions θ de ces formes linéaires, donc ça c'est agréable, mais on a ce terme-ci qui est embêtant, a priori. Mais je vais montrer qu'il n'est pas embêtant maintenant. Je vais montrer de manière heuristique qu'on peut le laisser tomber. Donc pour ça, j'ai besoin de faire un peu de place. Donc on a des fonctions θ. Donc θ, mur infini, hein, à la fonction de saut 1. Mais en fait, je prétends que, donc, puisqu'on a des fonctions θ, elles forcent la particule. Donc je vais parler de du point représentant les facteurs d'échelle comme étant la particule. Donc quand je parle de particule, c'est l'objet dont les coordonnées sont bêta mu dans l'espace des facteurs d'échelle. Donc le fait qu'on ait des potentiels infinis force la particule à être du côté où les formes linéaires, bon, alors comme j'ai mis un signe moins, sont positives, de manière à ce que le coefficient de rho soit négatif. Hein. Donc il faut que les formes linéaires soient positives. Mais je prétends que si toutes ces formes linéaires que j'ai écrites ici, l'électrique, la magnétique, celles qui apparaissent là et celles qui sont là, sont positives, alors automatiquement, μa est positif. Et donc, ce terme-là va tendre vers zéro à la limite, automatiquement. Et donc, bon, peut-être qu'il n'a pas le bon signe, mais comme il tend vers zéro, on peut l'oublier. Donc, on peut négliger. Donc, les termes en E exposant moins μa, moins 2 μa, quel que soit leur signe, on peut les négliger. Et il y a plusieurs manières de voir ça. Si on a des murs, si on a des P-formes, c'est la manière la plus rapide. Prenez la somme de E avec M pour les mêmes valeurs de P, et pour le dernier AP plus 1, vous prenez petit a. Je prétends que la somme va vous donner, ces termes s'en vont, la somme va vous donner exactement mu a. Donc je prétends que E A1 jusqu'à AP plus M A1 AP petit a, c'est mu a. Et donc si les E sont positifs et les M sont positifs, mu a est automatiquement positif. S'il n'y a pas de P-forme, on peut aussi écrire les mu comme combinaison linéaire des alpha avec des coefficients positifs et on arrive à la même conclusion. Donc la conclusion finale, c'est qu'à la limite BKL, donc on n'a plus ça, et le Hamiltonien BKL. Oui ?
Et s'il n'y a pas de P-forme et qu'on
a que des scalaires ? Non, mais on a alors les murs gravitationnels. Hein, on a toujours la courbure. Donc dans les. Donc, il faut que ça. Oui, on peut écrire mua, donc j'étais un peu vite, je ne l'ai pas fait, mais donc je le répète. On peut écrire les mua comme somme à coefficient positif de certains alpha. Il suffit de regarder la forme des alpha. Bon, à quatre dimensions, c'est évident, puisque l'alpha ici, c'est 2. On a vu qu'à 3 plus une dimension, chacun des alpha, c'était soit 2 bêta 1, ou 2 bêta 2, ou 2 bêta 3, et donc c'est clair que la somme bêta 1 plus bêta 2 peut s'écrire comme 1 demi. 2 bêta 1 plus 2 bêta 2, et donc c'est positif. Donc on a cette propriété-là aussi, même s'il n'y a pas de P-forme. Pour les P-formes, c'est plus simple, il suffit d'ajouter les mu, on a même, les coefficients sont en plus des entiers. Dans l'autre cas, c'est des coefficients qui ne sont pas entiers. Mais donc, à la limite, on arrive à la description suivante. Que l'Hamiltonien de BKL... Donc là, maintenant, j'ai fait une approximation. Et donc l'approximation revient à remplacer tous les potentiels par ces murs infinis. Donc j'ai toujours le même terme cinétique. Je dois faire attention à la position des indices. Plus tous les murs, mais les murs se réduisent à... Et donc, je vais les écrire quand même. Donc, on a ce qui vient du potentiel de symétrie ou centrifuge. Là, je l'ai écrit en termes de bêta, mais on peut projeter sur l'hyperboloïde. Alors, c'est en termes de gamma que ça vient. Plus la somme des murs électriques. Plus la somme des murs magnétiques, et plus ce qui reste des murs gravitationnels. Et donc, chaque fois, les sommes doivent être restreintes, comme je l'ai expliqué. Hein, moins 2, alpha, A, B, C. Et donc, finalement, on a un Hamiltonien à la limite relativement simple. Et on voit aussi que, comme tout ce Hamiltonien à la limite BKL ne dépend plus des variables non diagonales, parce qu'on a pu les absorber chaque fois dans les murs. Elles apparaissaient avant, mais alors comme coefficient des murs, donc on les a absorbées. Ce qui veut dire qu'à la limite BKL, toutes les variables non diagonales, si vous calculez les équations du mouvement, c'est que vous devez calculer le crochet avec le hamiltonien, mais comme le hamiltonien ne dépend pas des variables diagonales, ces variables tendent vers des constantes à la limite BKL, donc elles gèlent à la limite. Et la dynamique intéressante est en fait entièrement contenue dans les facteurs d'échelle. Oui ? C'est ça, donc quand toutes ces formes ici sont du côté où les θ sont nuls, alors automatiquement on peut démontrer que le μa est positif, et donc à la limite BKL il tend vers zéro.
Et du coup quand on n'est pas du côté où il y a un θ qui est infini par exemple?
Oui, mais on n'y va pas, puisque on va voir que justement, je vais discuter un petit peu la forme, le rôle des θ, mais en fait le mouvement va être confiné dans la zone où tous les arguments des θ sont positifs. Non, je vais vous montrer qu'il est réellement... Bon, on va voir qu'il y a des murs, c'est réellement un mur qui est derrière. Donc, je vous ai dit, la dérivation était un peu heuristique. On va avoir des confirmations, disons, plus tard. Mais effectivement, c'est un peu délicat ce que je fais comme limite. Je vais ici un peu vite, mais bon. Donc c'est une question effectivement importante. Mais on verra que c'est confirmé parce que je vais montrer. Donc les variables non diagonales gèlent. La dynamique intéressante, c'est les facteurs d'échelle. Et ce que je vais essayer de comprendre maintenant, c'est à quoi ressemblent tous ces murs de potentiel. Et en fait, l'important, et on va le calculer explicitement, c'est que tous ces murs de potentiel, donc les murs sont là où les formes s'annulent. D'un côté, elles sont positives, de l'autre côté, elles sont négatives. Là où elles sont positif. Bon, j'ai mis un coefficient en moins. Donc là où les E sont positifs, le mur est nul. Là où ils sont négatifs, le mur est infini. Et là où c'est nul, c'est la position du mur. Je vais montrer que tous ces murs sont en fait des hyperplans, puisque on est en géométrie linéaire, sont des hyperplans de genre, alors puisque il y a une métrique, un hyperplan peut être de genre espace, de genre temps, de genre lumière. En fait, tous ces murs sont des hyperplans de genre temps. Donc c'est déjà pas quelque chose d'évident a priori, mais je prétends que tous les murs, c'est-à-dire là où ces formes linéaires s'annulent, sont des hyperplans de genre temps. Ce qui veut dire que dans le cône de lumière, ils vont tous intersecter le cône de lumière. Et donc la particule qui va à la vitesse de la lumière, puisqu'ils sont de genre temps, est susceptible de les rencontrer. S'ils étaient de genre espace, une fois qu'on est rentré dans le cône de lumière, on peut complètement les oublier, ces murs. Et en fait... exercice, le mur mua, les murs mua sont de genre lumière. Donc une fois qu'on est rentré, donc je suppose que les conditions initiales sont ici dedans, et puis on regarde comment ça se passe, les murs là sont toujours négatifs. Ils sont toujours derrière ces murs de genre temps. Donc il y a des murs de genre temps, je ne l'ai pas encore montré, on va vérifier, et comme c'est un calcul qui est quand même intéressant, je vais le faire explicitement pour vous montrer comment ça fonctionne, que tous ces murs sont de genre temps. Bon, alors, je vais le faire après, mais anticipant le résultat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, deux choses, soit ça veut dire qu'ils vont être à l'intérieur du cône de lumière, donc dans la description, en termes de ligne droite de lumière décrivant le mouvement de la particule, ça veut dire que cette ligne droite peut rencontrer les murs. Si je regarde la version projetée sur l'hyperboloïde, puisque c'est des hyperplans de genre temps, ils vont couper l'hyperboloïde, et vous coupez l'hyperboloïde selon un hyperplan de l'espace hyperbolique, ce qui ne ferait pas s'ils n'étaient pas de genre temps. Mais donc, la description des murs, on peut soit réfléchir en termes de zone de l'hyperplan hyperbolique déterminé par les murs, soit en termes d'hyperplan de genre temps dans le cône de lumière. Les deux descriptions sont utiles, et je les utiliserai. Alors, avant de vérifier l'affirmation que j'ai donnée que c'était bien des hyperplans de genre temps, bon, ça veut dire aussi la chose suivante, donc on a un mur de potentiel, et donc une particule de genre lumière qui touche l'hyperplan. On peut montrer que ce qui va se passer, en fait, il faut intégrer les équations du mouvement avec un mur de potentiel, donc ce n'est pas très compliqué. Il va y avoir une réflexion spéculaire, c'est-à-dire une réflexion. Et cette réflexion, puisque l'hyperplan est de genre temps, va être une transformation de Lorentz, mais qui préserve la direction du temps. Donc, c'est pas, si c'était un hyperplan de genre espace, évidemment, ça retournerait le sigle du temps. Donc, ça va être une transformation de O, M. Bon, le déterminant est une réflexion, c'est le déterminant moins 1. Alors, M, ça va être la dimension d'espace-temps. Donc, c'est le nombre de facteurs d'échelle, moins 1. Donc, le nombre de facteurs d'échelle, c'est la dimension. Pardon, c'est la dimension. C'est le nombre de facteurs d'échelle, c'est les facteurs d'échelle. Plus le nombre de dilatons, appelons ça n, si j'en ai plus qu'un, moins 1. Parce qu'il y en a un qui est de genre, il y a une combinaison qui est de genre temps qui est là. Hein. Donc m, c'est ça. Donc je suis dans l'espace de Minkowski de dimension m plus 1. Et la réflexion va être une transformation de om plus 1 orthochrone, qui préserve le signe du temps. Alors soit on met une flèche, soit on met un plus. En général, les mathématiciens mettent plus, donc je mets un plus. Bon. Même si dans d'autres cours, je mets une flèche. Donc ça veut dire que ça préserve l'orientation du temps. Donc ce qui va se passer, c'est que le mouvement à la limite BKL va être. Donc soit on utilise la description dans l'espace de Minkowski, donc ça va être une ligne de genre lumière brisée. Et à chaque fois qu'on rencontre un hyperplan, on a une réflexion. Dans cet hyperplan, la vitesse devient réfléchie selon les règles des réflexions, et donc on va avoir une ligne de lumière brisée. Et chaque fois, avec une réflexion, chaque fois qu'on touche à ces hyperplans, dans l'espace hyperbolique, si je projette ça, je vais avoir une zone de l'espace hyperbolique délimitée par les hyperplans hyperboliques obtenus en prenant l'intersection avec les hyperplans de Minkowski. Donc ça va me déterminer une certaine zone. Et à nouveau, la trajectoire, on a vu Kastner projeté, me donne une géodésique, donc je vais avoir une géodésique brisée, et chaque fois que je touche un mur, il y a une réflexion, qui est une réflexion dans l'espace hyperbolique, et donc ça va être une succession de morceaux de géodésique, avec chaque fois une réflexion, avec angle d'incidence égale angle de réflexion quand on touche le mur hyperbolique. Mais donc, je dois encore vous vérifier que tous les murs sont bien des murs de genre temps. Hein. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Et puis, on va étudier d'un peu plus près la forme de ces billards. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de billards dans l'espace hyperbolique, puisque le mouvement va être une succession de morceaux de géodésique entre deux murs. On a une géodésique dans le plan hyperbolique. Et puis, chaque fois qu'on touche un mur, on a une réflexion. Et alors, en fait, on peut montrer que la loi de BKL qui vous donnait en fait l'influence des termes dans la courbure sur Kastner. Donc je vous ai vu que l'influence d'un terme c'était de changer les exposants de Kastner. C'est exactement la loi de réflexion de OM1. Donc la description de BKL en termes de succession de régimes de Kastner avec une loi de transformation des exposants, mais c'est exactement ce qu'on obtient ici. On a les géodésiques, ben c'est Kastner, donc on a des morceaux de géodésique qui sont chaque fois, c'est une géodésique brisée avec de nouveau, disons, une nouvelle vitesse chaque fois qu'on a une collision, et la loi de transformation de la vitesse, c'est juste la loi de transformation des exposants de Kastner. C'est la même chose, on peut le vérifier. Et donc ce qui va être important maintenant, c'est de comprendre la structure du billard et comprendre d'un peu plus près les conditions impliquées par le fait qu'on doit être chaque fois du côté, disons, positif des murs. Mais avant ça, donc, je voudrais vérifier, calculer explicitement les normes des murs qui apparaissent là. Comme ça, on va se familiariser avec la métrique de De Witt aussi, puisque c'est elle qui est utilisée pour calculer les produits scalaires. Donc dire qu'un hyperplan de l'espace de Minkowski est de genre temps, ça veut dire que sa normale est de genre espace. Donc, si, comme ça. Donc, ça, c'est l'hyperplan. La normale est de genre espace. Alors, les murs, on les a sous forme d'équations linéaires. Donc, en fait, ils ont la forme suivante. Donc, on a une équation qui est une forme linéaire en la bêta doit s'annuler, où n mu, c'est les coefficients qui apparaissent ici. Ça dépend du mur que vous regardez. Mais en fait, ces coefficients-là, c'est précisément à une norme près la normale. Ça, je peux l'écrire comme g mu nu n mu bêta nu égale à 0. C'est le produit scalaire de bêta avec n est égal à 0. Donc ça, c'est bien. Donc les coefficients ici sont les coefficients, sont les composantes de la normale covariante. On a baissé l'indice. Et donc pour calculer, pour savoir si la normale est de genre temps, de genre lumière ou de genre espace, ce que je dois calculer, c'est g mu nu, n mu, n nu, enfin le produit scalaire de la normale avec elle-même. Je vais l'écrire comme ça parce qu'en fait, les n, je peux les lire directement en ayant la forme linéaire. C'est les coefficients des bêta. Et donc de manière explicite, bon, j'aurais peut-être besoin de calculer ça pour deux vecteurs distincts, donc écrivons ça d'abord pour deux vecteurs distincts, et puis on va les faire égaux pour calculer les normes, mais j'aurais besoin de manière générale des produits scalaires. Donc ça, c'est, d'après ce qui est écrit ici, oui, voilà, ça va être somme sur A des NA PA moins 1 sur D moins 1 somme sur A DNA, somme sur B, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, DPB, et puis la contribution des dilatons, ça c'est simple, plus Nφ, Pφ. Donc il faut calculer ça pour toutes les formes linéaires qu'on a là. Alors calculons d'abord pour les murs de symétrie. Donc on appelle murs de symétrie ceux qui sont définis par la condition βB moins βA. Alors B est supérieur à A sans doute, oui. Donc B est strictement plus grand que A. Et donc c'est là où ceci s'annule. Donc c'est B moins bêta A égale à 0. Donc vous voyez qu'il y a deux coefficients non nuls parmi les n. Il y en a un qui vaut plus 1 et l'autre qui vaut moins 1. Donc la somme des n, ça fait 0. Donc on va avoir que la contribution ici. Et donc je vais avoir le premier au carré plus le deuxième au carré. Donc je vais avoir 1 plus 1 au carré. Donc dans ce cas-là, la norme, c'est plus 2. Alors pour les murs de gravitation, de courbure, donc les alpha, A, B, C, donc je vous rappelle la définition, c'est 2... bêta A plus somme sur E différent de A, différent de B, différent de C, des bêta E. Donc dans ce cas-là, donc il y a combien de termes? Donc il y en a un qui est un facteur 2, donc un des N ici va avoir être égal à 2, et puis j'en ai ici combien? Donc si petit d est la dimension d'espace, il y a trois valeurs exclues, donc ça va être d moins 3. Hein. Donc je vais avoir d moins 3 coefficients non nuls égaux à plus 1, et un coefficient non nul égal à plus 2, et puis les deux derniers sont nuls. Donc, ici, je vais avoir celui qui correspond à plus 2 va me donner 4, et puis je vais en avoir d moins 3 dont le coefficient est égal à 1, 1 au carré c'est 1, donc je vais avoir plus d moins 3. Bon, j'espère que vous pouvez ça sans mes notes, en général au tableau je me trompe toujours, donc on verra. Et puis, alors là, il y a une contribution non nulle qui sort. Donc c'est la somme, je dois faire la somme des coefficients au carré. Alors la somme des coefficients, j'ai d moins 3 qui vient de là, plus 2, ça fait d moins 1 au carré. Et donc, il y a une simplification par d moins 1, il y a une simplification par d, j'ai 4 moins 3 plus 1, la norme est aussi 2. Donc, on voit que tous les murs qui viennent de la gravitation, parce que ça venait de la gravitation, les composantes non diagonales, ça vient de la courbure, ont une norme égale à 2. Norme carrée égale à 2, mais donc sont bien de genre... La normale est bien de genre espace, et donc l'hyperplan lui-même est bien de genre temps. Alors pour les autres murs, le calcul n'est pas très compliqué, peut-être je fais juste le mur électrique. Je vais le faire... j'ai plus besoin de ça. Ça par contre, heureusement je travaille avec les moments conjugués. Bon, pour les murs électriques, on va voir que la norme est aussi strictement positive. Alors, à nouveau, vous voyez, j'ai combien de coefficients égaux à 1, j'en ai P. Donc, ceci, donc je dois faire petit PA égale à NA, donc ça va me donner une contribution égale à P. Puis là, je vais avoir une contribution non nulle aussi, qui est la somme des P au carré. J'ai 1, 1, 1, donc j'ai P au carré. Et puis j'ai la contribution qui vient... du dilaton, qui va être lambda phi sur 4, au carré, lambda phi carré alors j'espère que je ne me suis pas trompé, donc ça c'est égal à P sur D moins 1 fois D moins 1 moins P plus lambda phi carré sur 4. Et vous voyez que ça, en fait, bon, P évidemment est contraint, je vous ai dit, je considère que des P-formes dynamiques, et d'où P était inférieur ou égal à D moins 1. Alors quand P est égal à D moins 1, en fait, c'est équivalent à un scalaire, donc c'est pour ça qu'on retrouve ce terme nul. On avait vu que le mur du scalaire, je vous avais dit, est de genre lumière, ce que vous pouvez vérifier, mais en général, ça va être strictement positif. Donc si c'est scalaire, c'est 0. Donc on retrouve pour 0 et D-1 la même chose ici. Ça, c'est la dualité, en fait. Et puis, il y aura une contribution non nulle s'il y a un couplage au dilaton. Donc, les cas intéressants, c'est le cas où j'ai vraiment des vraies P-formes dynamiques et qui ne sont pas des scalaires. Donc, c'est ceci. Et dans ce cas-là, c'est strictement positif. Et il y a une contribution non nulle qui vient de là. Alors, juste par curiosité, pour voir si je ne me suis pas trompé dans la formule, si je regarde une 3-forme... AD égale 10 dimensions, donc 11 dimensions d'espace-temps. Normalement, je dois trouver la norme carrée égale à 2, comme pour les murs gravitationnels. Alors, voyons, donc une 3-forme P égale à 3. D, c'est 10, j'ai dit, donc ça fait 9. Sur 10 moins 1, 9 moins 3, il n'y a pas de dilaton. Et donc, j'ai 3 fois 6 sur 9, c'est-à-dire 2. Donc les murs d'une 3-forme sans dilaton ont juste la valeur 2, comme pour les murs gravitationnels, à 11 dimensions d'espace-temps. Les autres dimensions, ce sera des nombres carrés positifs, mais qui ne seront pas commensurables avec 2. Bien, mais donc l'affirmation que je vous ai donnée, que tous les murs étaient de genre, correspondaient à des hyperplans de genre temps, est vérifiée. Oui ? Ici, ce n'est pas important. Non, non, ce sera important plus tard. Mais c'est vrai, ici, d'ailleurs, pourquoi j'ai gardé les facteurs moins 2 et pas, j'aurais pu mettre ça égal à 1 aussi, hein, c'est vrai. Donc, à ce niveau-ci, ce n'est pas important, mais on va voir que ça prend un sens plus tard. Maintenant, et même pour toute la leçon d'aujourd'hui, ce n'est pas important. Mais comme ce sera important plus tard, je le fais, je prépare le terrain. Bien, alors, je pense que... Et donc on voit apparaître la description suivante. Le régime BKL est décrit soit en termes de, comme j'ai dit, de droite de lumière brisée. Et chaque fois qu'on a une collision, en fait, c'est la transition de BKL qu'ils avaient dérivée tout à fait autrement, en intégrant les équations d'Einstein, mais en faisant d'autres. Pas dans le contexte des billards, soit en termes de mouvement dans une portion de l'espace hyperbolique défini par tous ces murs, et donc c'est une géodésique brisée, avec réflexion chaque fois qu'on atteint un mur. Et géodésique ou ligne droite, ça correspond à Kastner, et la collision, ça correspond à la transition de BKL. Bien. Alors, pour comprendre un petit peu mieux la structure du billard et voir que la région, ou de la région à l'intérieur du cône de lumière délimitée par les hyperplans est assez intéressante, je dois développer un certain nombre de concepts de l'espace hyperbolique. Donc, je vais vous parler de polyèdre convexe dans l'espace hyperbolique. Donc, en fait, je voudrais parler maintenant, parce qu'en fait, on va voir que... Donc, on peut décrire le mouvement comme une succession de réflexions. Donc, il y a un groupe qui est associé à ça, le groupe engendré par toutes ces réflexions. Et ça, il s'avère que c'est un groupe de Coxeter. Donc, je vais introduire maintenant un certain nombre de concepts intéressants liés au groupe de Coxeter, et ça va nous amener aux algèbres de Kac-Moody. Et pour faire ça, je dois peut-être rappeler un certain nombre de choses très élémentaires de géométrie hyperbolique. Donc ça, c'est... je vais parler maintenant des groupes de Coxeter. Et pour parler des groupes de Coxeter, je vais d'abord parler des polyèdres convexes. Voyons, c'est ça que je veux dire. On a envie de comprendre un petit peu mieux la zone où la particule peut se déplacer, que c'est ça qui détermine le mouvement à la limite BKL. Et donc, voilà. Dans l'espace hyperbolique. Alors, l'espace hyperbolique, je vais le noter H. Alors, normalement, j'aime bien le noter comme ça, mais c'est un peu lourd à écrire au tableau. Donc, à un moment donné... il n'y aura plus de barres, HM. Donc M est la dimension de l'espace hyperbolique, comme on a vu. Donc c'est D, dimension d'espace, c'est le nombre de facteurs d'échelle liés à la métrique, plus N, le nombre de dilatons, moins 1. Et l'espace hyperbolique HM, je vais le voir soit comme ici, comme nappe supérieure de l'hyperboloïde unité. Je vais utiliser... cette représentation-là. Soit je vais utiliser, parce que ce n'est pas très commode à dessiner, je vais utiliser la représentation conforme qui généralise à plus de deux dimensions, la représentation, vous connaissez sans doute, de disque de Poincaré. Donc le disque de Poincaré, c'est pour H2, et la manière de l'obtenir, c'est on projette l'hyperboloïde à partir du point moins 1. Donc, moins 1 en termes de coordonnées temporelles. Moins 1, 0, 0. Donc, on prend ici le point. Et vous projetez l'hyperboloïde sur le plan x0 égale à 0. x0 étant une vraie coordonnée temporelle. Donc, ce n'est pas bêta 0. Donc, c'est somme des bêta. Vous faites somme des bêta égale à 0, et là c'est somme des bêta est égale à moins 1 et toutes les autres composantes égales à 0. Donc, et vous projetez, et il est clair que vous allez obtenir à deux dimensions un disque. Et on peut montrer que c'est une représentation conforme, c'est le disque de Poincaré, la représentation de l'espace hyperbolique sous forme de disque. Donc je vais utiliser, et donc dans ce cas-là, donc l'infini c'est le bord du disque, donc les distances sont évidemment pas préservées, mais les angles sont préservés, ce qui est utile. Ce qui va être important pour nous, parce que les angles, c'est la chose qui va m'intéresser. Donc, quand on fait cette projection, vous voyez que les droites de lumière, ça détermine la limite, ici. Donc, ceci, ça va être le cône de lumière qui passe par ce point-là. Son intersection avec le plan x0 égale à 0 me donne le disque de Poincaré. Et à plus grand nombre de dimensions, ce sera, disons, la boule de Poincaré. Et l'infini, c'est le bord. Et l'important de cette représentation, je ne vérifie pas, mais vous pouvez faire le calcul, c'est qu'elle est conforme, c'est-à-dire qu'elle préserve les angles. Donc les angles sont les angles. Et dans la représentation du, plan de point, du disque de Poincaré, les droites sont en fait soit des droites passant, des arcs, enfin des morceaux de droite passant, des segments passant par l'origine. Si ça ne passe pas par l'origine, c'est des arcs de cercle orthogonaux au bord. Donc, voilà deux exemples de droite. Donc ça, enfin, c'est un principe orthogonal. Donc ça, c'est des droites dans l'espace, la représentation de points carrés du plan hyperbolique. Et je vais utiliser les deux langages. Le langage adapté à cette représentation hyperboloïde avec des hyperplans, ou la représentation de points carrés qui est plus facile à visualiser parce que tout est ramené à distance finie. Alors, que sont les hyperplans de l'espace hyperbolique? Les hyperplans de l'espace hyperbolique, c'est intersection d'hyperplans de genre temps de l'espace de Minkowski avec l'hyperboloïde unité. Et je voudrais maintenant définir l'angle dihédral entre deux hyperplans hyperboliques. Alors, c'est un peu plus subtil que en géométrie sphérique parce que deux hyperplans hyperboliques quelconques, de l'espace hyperbolique quelconque, ne se coupent pas nécessairement. Hein? Donc, imaginons, c'est facile à voir, hein, dans l'espace à trois dimensions, donc pour le plan hyperbolique, si j'ai ces hyperplans de genre temps qui se coupent le long de l'axe X, disons, il est clair que leur intersection n'est pas de genre temps, mais de genre espace, et donc elles ne rencontrent pas l'espace l'hyperboloïde unité, et donc ça va définir des plans qui ne se coupent pas, comme ici. Ça, par exemple, si je suis à deux dimensions, c'est aussi des hyperplans. Hein, par contre, l'autre cas, ce serait comme ça, ces deux hyperplans de genre temps, qui ont ensemble l'axe des temps, et donc qui clairement ils se coupent le long d'une droite de genre temps, donc là, une intersection non nulle, donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, les hyperplans se coupent. Et puis il y a le cas limite où il se coupe le long d'une droite de lumière, donc qui va intersecter l'hyperboloïde à l'infini, et donc on aura une situation pareille. Par exemple. Donc vous avez trois cas possibles, soit ça se coupe à l'infini, on dit alors que les hyperplans sont parallèles, soit ça se coupe au-delà de l'infini, si je puis dire, on dit qu'ils sont divergents. Alors, je veux définir l'angle dihédral entre deux hyperplans, mais je vais d'abord le faire lorsqu'ils se coupent. Et puis je vous dirai comment on le définit après, qui est en un sens une convention. Mais avant peut-être de... Oui, mais pour parler d'angle dihédral, je dois donner une orientation, je dois vous dire quelle est la partie positive, quelle est la partie négative. Donc je vais considérer... et ça, je peux le faire de deux manières différentes. Chaque hyperplan divise l'espace en deux parties. Et je vais orienter les choses de manière de pouvoir parler de parties positives et de parties négatives. La manière dont j'oriente, quelle que soit la manière dont j'oriente, la discussion est la même, mais je suppose qu'un choix a été fait. Et donc, je vais... donc ça revient à dire que j'ai choisi la normale. Et donc, je vais écrire... Donc, supposons que j'ai un hyperplan HI... Je considère la normale, je vais orthogonale donc à l'hyperplan que j'appelle EI, et je vais supposer que donc j'ai choisi, j'ai utilisé les mêmes notations. Bon, je vais appeler les points de l'espace de Minkowski, je l'appelle X maintenant. Donc je suppose que j'ai choisi une orientation, et donc je vais parler de demi-espace positif, c'est celui qui obéit à ça, où EI est la normale à HI. Et je note ça HI+, et le demi-espace négatif. Bon, pourquoi je dois être prudent? En fait, c'est déjà vrai dans l'espace de... dans le plan euclidien. Si je vous donne deux droites, et que je vous demande quel est l'angle entre ces deux droites, vous devez savoir si c'est celui-là qu'il faut regarder ou c'est celui-là qu'il faut regarder. Évidemment, il diffère de la somme faite en 180 degrés, mais il faut savoir lequel des deux. Alors, ce qu'on fait, c'est que on regarde en fait. Donc, je vais dire ça, c'est la partie positive de cet hyperplan. Mettons que la partie positive de cet hyperplan, c'est ça. Et donc, on va prendre l'angle de la partie commune aux deux parties positives. C'est comme ça que je vais calculer. L'angle dihédral va être l'angle de la partie où les deux inégalités, les deux. Donc, je vais considérer l'intersection H1 plus inter H2 plus, si j'en ai deux, et je vais considérer l'angle ici. Alors, si vous regardez les normales, vous voyez que les normales font un angle qui est le supplémentaire, hein, ou complémentaire, je ne sais jamais. Donc, là, supplémentaire, la somme fait 180 degrés. Oui, donc vous voyez que les normales, donc si ça c'est la zone positive, je prends la normale comme ça. Si ça c'est la zone positive, je prends la normale comme ça. Vous voyez que l'angle ici est le supplément, c'est égal à cet angle ici, hein, angle à côté perpendiculaire. Donc l'angle formé par les vecteurs normaux, c'est en fait le supplémentaire de l'angle dihédral. Et donc si je calcule le cosinus de θ ij, ça va être donné par moins le produit scalaire EI EJ divisé par la norme. Je vais prendre des normales normées à 1. Si on n'est pas normé à 1, comme là, il faudra diviser par les normes, les racines carrées des normes des normales. Mais donc l'angle dihédral, lorsque ça se coupe, est défini comme ça. Mais ça correspond effectivement à ce que j'ai dessiné. Est-ce que c'est clair? J'ai peut-être été un peu. Bon. Et donc, lorsque les hyperplans se coupent, ils se coupent selon une droite de genre. Lorsqu'ils se coupent dans l'espace hyperbolique, ça veut dire qu'ils se coupent selon un sous-espace de genre temps. Ça veut dire que les deux normales engendrent un espace à deux dimensions de genre espace. Et donc, donc c'est pour ça que j'ai pu utiliser ces formules. Le produit scalaire est bien obéi à l'inégalité de Schwarz, l'inégalité qui vous dit que c'est bien plus petit que ceci va être, me définit bien le cosinus d'un angle, hein, me définit bien un angle. D'accord ? Donc ça, c'est l'angle dihédral, il est défini comme ça quand ça se coupe. Alors quand ça ne se coupe pas, donc il y a deux cas, soit ils sont parallèles et on est dans une situation comme ça, soit ils sont divergents. Alors, quand ils sont parallèles, ça veut dire qu'ils se coupent en fait dans l'espace de Minkowski. Évidemment, dans l'espace de Minkowski ambiant, ils se coupent toujours, mais ils se coupent selon un sous-espace de genre lumière, et donc qui est tangent asymptotiquement. Et donc, ils se coupent à l'infini, si je puis dire. Donc, on dit qu'ils sont parallèles. Et dans ce cas-là, en fait, ils vont donc. Si vous regardez le plan à deux dimensions engendré par les deux vecteurs normaux, E1 et E2, ben, ils diffèrent par. La géométrie dans ce plan est la géométrie d'un plan nul. C'est-à-dire que la différence entre E1 et E2, ou E1 et moins E2, ça va dépendre, est un vecteur nul. Et la métrique est dégénérée dans ce sous-espace. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le produit scalaire va être égal à moins 1 ou plus 1. Donc ça, c'était le cas. Les plans se coupent, les hyperplans se coupent. Hyperplan parallèle. Donc ceci, le produit scalaire est dans ce cas-là égal à 1 en valeur absolue. Alors, on va voir que ce qui nous intéresse, c'est réellement le cas où c'est égal à moins 1, donc ça pourrait être égal à plus 1 ou à moins 1. Je vais juste dessiner pour que, à nouveau, les choses par un dessin se comprennent tout de suite. Donc, dessinons de nouveau le cas où les hyperplans se coupent à l'infini, donc on a quelque chose comme ça. Donc, le vecteur normal au premier, c'est comme ça, ça dépendra de l'orientation. Si je dis ça, c'est la partie positive, le vecteur normal est comme ça. Et vous voyez que le vecteur normal au deuxième, selon que je dis, il y a deux cas possibles. Soit il est comme ça, ça veut dire que je décrète que la partie positive, c'est ceci. Soit il est dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, la partie positive est comme ça. Alors, vous voyez que dans les... que dans ce cas-ci, donc, si j'oriente les choses comme ça, vous voyez que l'intersection des deux zones positives est vide. Parce que ça, on doit être de ce côté-là de cet hyperplan-ci et de ce côté-ci de cet hyperplan-là. Bon, par contre, si j'oriente de la même manière, bon, alors évidemment, j'aurais pu orienter... Pardon, donc j'espère que c'est clair ce que je dis. J'aurais pu prendre la normale à celui-ci de ce côté-là, donc tout ça est positif, et la normale à cet hyperplan-là, comme ça, et donc tout ça est positif, et donc ça me détermine ceci comme zone positive. Donc dans un des cas, il y a aucune l'intersection est vide, dans l'autre cas, j'ai une intersection non triviale, et les deux conditions sont importantes. C'est-à-dire qu'il faut être à droite de ça, et disons à gauche de celui-ci, me détermine une zone non triviale. Donc lorsque le produit scalaire est négatif, c'est-à-dire moins 1 dans ce cas-ci, soit l'intersection des deux sous-espaces positifs est vide, et donc ce n'est pas très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a rien, soit elle est non-triviale, c'est-à-dire que chacun des hyperplans est important pour déterminer la zone. Si maintenant E1, E2 est égal à 1, donc en termes de, quand je projette ici à deux dimensions, ça veut dire que les deux vecteurs ont la même direction. Mais dans ce cas-là, il y a une condition qui implique l'autre. C'est-à-dire que la partie positive déterminée par un des hyperplans contient entièrement la partie positive que contient l'autre. Et donc, il y a une redondance dans les conditions. Et comme donc le cas E1 égale à E2 existe, égale à 1, le produit scalaire pardon, égale à 1 existe, mais du point de vue billard et des limitations des régions, n'est pas très intéressante parce que ça veut dire qu'une des deux conditions de positivité est une conséquence de l'autre. Et donc on ne va pas tellement s'intéresser dans ce cas-là à garder tous les murs. S'il y a des murs dont la présence n'apporte rien, on les laisse tomber. Parce que la seule chose qui va nous intéresser, c'est les murs relevants. Je vais expliquer ça dans un instant. Mais donc retenons que dans le cas où c'est parallèle, le produit scalaire vaut en valeur absolue 1, la métrique est dégénérée dans le sous-espace à deux dimensions engendré par E1 et E2, mais le cas réellement intéressant, c'est le cas où E1, E2 est égal à moins 1. Alors dans le cas hyperbolique, on peut montrer que c'est la même chose. Vous voyez bien, si, dans le cas où pardon, c'est divergent, vous voyez bien que si les deux normales vont dans le même sens, une des régions est inclue dans l'autre, et c'est uniquement quand c'est négatif qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Donc ça généralise directement le cas où les hyperplans sont parallèles. Mais donc retenons que lorsque ça se coupe, l'angle dihédral est déterminé par cela. Lorsque c'est parallèle, le produit scalaire vaut plus 1 ou moins 1, mais le cas qui va vous intéresser, c'est moins 1 pour les raisons que j'ai expliquées. Et lorsque c'est divergent, c'est aussi soit positif, soit négatif, mais c'est le cas où c'est négatif qui va nous intéresser pour les mêmes raisons. Bien. Alors maintenant, je vais parler de polyèdre convexe dans HM. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre convexe? C'est l'intersection d'un nombre fini de demi-espaces positifs déterminés par des hyperplans. Donc, pour être tout à fait précis, donc, P, on se donne un certain nombre d'hyperplans orientés, et P va être l'intersection sur ces hyperplans des sous-espaces, des demi-espaces positifs. Et je suppose qu'elle est non vide, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord ? Donc je suppose que l'intérieur est non vide. Et je vais parfois inclure, oui, dans HI+, je vais parfois inclure le bord. Donc je vais, à partir de maintenant, d'ailleurs, je vais autoriser supérieur ou égal. Donc j'inclus la face. Et donc les faces, va être les faces du polyèdre, ça va être les bords. Alors c'est clair qu'une telle intersection est convexe, c'est ça qu'on parle, hein, puisque chaque demi-espace est convexe. Vous avez deux points dans un demi-espace, vous pouvez certainement, toute la droite, le segment de droite qui les joint est dedans, est l'intersection d'un nombre fini d'ensembles convexes et convexes. Donc, ça veut dire que c'est convexe. Donc voilà, un polyèdre convexe, c'est donc l'intersection d'un ensemble de demi-espaces positifs avec intérieur non vide, et c'est exactement ce qui sort de l'analyse BKL, hein, puisqu'on a un certain nombre d'hyperplans. Il faut être du côté positif, ou positif est défini par les signes que j'ai donnés, de ces hyperplans. Donc il faut être dans un tel P. Alors, une fois qu'on a un polyèdre convexe, on peut former ce qu'on appelle... Oui, alors peut-être... Donc les faces, c'est clair ce que sont les faces. Je vais supposer ici aussi que tous ces hyperplans sont relevants. C'est-à-dire que si j'en enlève un, donc une intersection avec un terme de moins, je change la région. S'il y a des hyperplans superflus, je les laisse tomber. Et donc une fois que j'ai laissé tomber tous les superflus, il ne reste plus que les relevants. Alors, on associe un tel polyèdre, ce qu'on appelle une matrice, qui est la matrice de Gram. Qui est formée par les produits scalaires EI fois EJ. Donc ces produits scalaires existent toujours. Hein. Donc c'est la matrice qui contient tous les produits scalaires. Parfois, ils ont deux sous-espaces peuvent définir. On peut être dans ce cas-ci, mais les produits scalaires existent. Si on est dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'angle dihédral, mais les produits scalaires existent. Hein. Donc, c'est la matrice qui contient tous ces produits scalaires. Alors, cette matrice, elle est au plus, puisqu'on est dans un espace de dimension M plus 1. Même si j'ai beaucoup d'hyperplans, ça peut arriver, elle est au plus de rang M plus 1. Puisque ça, c'est les produits scalaires, un produit scalaire de vecteurs qui sont dans l'espace ambiant. Et on sait bien puisqu'on a M plus une dimension, je ne peux pas avoir plus de M plus un vecteur linéairement indépendant. Donc clairement, la matrice, même dans le plan, je peux avoir plus d'hyperplans que la dimension plus 1. Hein, que 3, mais donc je pourrais avoir une matrice ici beaucoup plus grande, mais le rang de la matrice, si je fais tous les produits scalaires correspondant à ça, va être au plus 3. Alors, on dira que le polyèdre est non dégénéré si le rang est exactement égal à M plus 1. Et quand je dis le plan, je voulais dire l'espace hyperbolique hein, à deux dimensions. Et en fait, quand c'est égal à M plus 1, c'est exactement un simplex. Hein, si le nombre, le nombre d'hyperplans est grand N et que le rang est exactement... Donc le rang maximum, évidemment, ça va être grand N. Et si j'ai N est égal à M plus 1 et que le rang est égal à M plus 1, on a un simplex. Sinon, on a un polyèdre qui a plus de faces que n'en a un simplex. Alors, donc peut-être, oui, N, c'était le rang. Donc peut-être je dis 1 à... Donc a priori, j'en ai un grand nombre, hein, mettons grand Z. Et donc N, c'est le rang de la matrice de Gram. Eh bien, en général, le rang est en général inférieur à M plus 1, mais s'il est égal à M plus 1, c'est non dégénéré. Et si c'est égal à Z, égal au rang, c'est un simplex. Alors, on va considérer ce qu'on appelle des polyèdres à angle aigu. Donc c'est peut-être une petite ambiguïté. Quand je parle des vecteurs ici, c'est vraiment des vecteurs dans l'espace ambiant à trois dimensions. Donc quand je suis, quand je parle du plan hyperbolique à deux dimensions, les vecteurs correspondants, c'est les vecteurs dans l'espace de Minkowski à trois. C'est pour ça qu'on peut avoir trois vecteurs linéairement indépendants. Alors, les polyèdres à angle aigu, donc je me place dans le cadre de l'espace hyperbolique tout le temps. Alors, on dira qu'un polyèdre est à angle aigu, eh bien, si lorsque les faces se coupent, donc si on est dans ce cas-là, l'angle est aigu, donc l'angle dihédral est aigu. Donc, si les hyperplans se coupent, dans l'espace hyperbolique, donc on peut parler, comme je vous l'ai dit, de l'angle dihédral, et on demande qu'il soit aigu. Donc ça veut dire que le cosinus sera positif, ou nul, si c'est pi demi, et donc ça veut dire que le produit scalaire EI, EJ est négatif, puisqu'on a cette relation-ci. Et s'il ne se coupe pas, on a vu que le cas intéressant était aussi le cas où les EI, EJ étaient négatifs ou nuls. Donc on dira qu'un polyèdre est un polyèdre à angle aigu si tous ses produits scalaires sont négatifs ou nuls, lorsque I est différent de J, évidemment. Lorsque I est égal à J, on a 1, c'est un vecteur de genre espace. Donc ça veut dire que la matrice de Gram, qui est une matrice symétrique, a des 1 sur la diagonale, et toutes les entrées non diagonales sont négatives ou nulles. Donc dans ce cas-là, c'est un polyèdre à angle aigu. Et qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre de Coxeter? Donc c'est ça qui va me définir les groupes de Coxeter. Un polyèdre de Coxeter, mais c'est un polyèdre à angle aigu. Donc c'est un polyèdre convexe, comme je les ai définis, tel que l'angle dihédral, lorsque ça se coupe, est un sous-multiple entier de pi. Donc on demande la chose suivante. Où MIJ est un entier. En fait, supérieur ou égal à 2. Et lorsque donc ça c'est lorsque ça se coupe, si et lorsque ça ne se coupe pas, ben l'angle dihédral n'est pas défini. En fait, sauf on dira qu'il est égal à 0. C'est clair lorsque c'est parallèle. Lorsque ça diverge, on dit que c'est aussi égal à 0. Bon, ça, c'est purement convention. C'est-à-dire qu'on a aussi cette relation avec MIJ égal à l'infini. Donc, si ça ne se coupe pas, si HI et HJ n'ont pas d'intersection. Donc, on autorise ce cas, mais ça n'apporte pas grand-chose. Le cas intéressant, disons, qui est restrictif, c'est lorsque les hyperplans se coupent, l'angle doit former un sous-multiple entier de pi. Et si c'est le cas pour tous les hyperplans et toutes les intersections d'hyperplans, on dira que le polyèdre est un polyèdre de Coxeter. Et c'est clairement un polyèdre à angle aigu, puisque les angles sont inférieurs ou égaux à pi demi. Alors, et je pense que je terminerai par là. On peut voir que dans le plan, un polyèdre de Coxeter est nécessairement, c'est facile à calculer, c'est la géométrie élémentaire, un simplexe. Dans le plan hyperbolique, c'est pas donc dans le plan ou sur la sphère. Donc dans ce cas-là, on parlera de groupe de Coxeter sphérique ou affine. Nécessairement, un polyèdre de Coxeter est un simplexe. Ça n'est pas vrai en géométrie hyperbolique. Je vais vous donner un exemple. Donc dans le plan hyperbolique, Donc un simplex, ce serait un triangle. Et si je prends un carré dont... ou ceci, donc ils se rencontrent tous à l'infini, donc c'est avec des angles nuls, enfin c'est mal dessiné. Donc l'angle est formé par les deux. Ça, c'est pas un simplex. Tous les angles sont égaux à 0 degré, donc on est dans ce cas-ci. Donc ça, c'est un polyèdre de Coxeter qui n'est pas un simplex. Donc en géométrie hyperbolique où la somme des angles d'un triangle est plus petite que 180 degrés, il y a de la place pour avoir des polyèdres qui sont de Coxeter qui ne sont pas des simplex. Mais en géométrie sphérique ou en géométrie affine, on peut démontrer que les polyèdres de Coxeter sont des simplex. Bien. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, c'est les simplex de Coxeter, c'est-à-dire des polyèdres de Coxeter, donc qui obéissent à cette condition. Quand deux faces se rencontrent, l'angle dihédral est un sous-multiple entier de pi, qui sont des simplex. Ce n'est pas forcé par les conditions dans géométrie hyperbolique, mais on va voir qu'en fait, c'est les seuls qui apparaissent en gravitation. Donc c'est ceux-là qu'on va étudier. Alors avant d'arrêter, je voudrais dire en quoi les polyèdres de Coxeter sont intéressants. C'est à tout polyèdre de Coxeter, je peux associer un groupe, le groupe de Coxeter engendré par les réflexions dans les faces. Donc à chaque face HI, je vais associer une réflexion, ce qui est la réflexion donc, où un vecteur comme ça est envoyé sur le vecteur comme ça. Donc, si c'est comme ça, envoyé là-dessus. Et puisque ce sont deux réflexions, les SI obéissent à la relation que si vous le faites deux fois, vous retombez sur vous avez l'identité. Mais le fait que l'angle est un sous-multiple entier de pi implique que si vous faites le produit SI et J, ça c'est une rotation, le produit de deux réflexions est une rotation, d'angle, ça va être une rotation d'angle 2pi sur MIJ, c'est l'angle double de l'angle dihédral formé par les hyperplans, donc ça va être 2pi sur MIJ, ce qui veut dire que si vous l'élevez à la puissance MIJ, vous allez obtenir 1. Et un groupe de Coxeter, c'est le groupe engendré par un certain nombre d'éléments du groupe, enfin par des éléments générateurs, les SI, soumis à ces relations, et soumis à ces relations uniquement. Et on peut voir que les groupes de réflexion dans un polyèdre de Coxeter sont des groupes de Coxeter, c'est-à-dire que ces relations sont clairement satisfaites, je viens de le montrer, mais il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est un peu plus dur à montrer, mais on peut le montrer. Et donc les exemples de groupes, ce que je vais montrer la fois prochaine, c'est le groupe qui apparaît en gravitation, donc les groupes de réflexion dans les murs du billard associés à la limite BKL, sont des groupes de Coxeter, c'est-à-dire qu'on va avoir cette relation-ci. A priori, c'est le Lagrangien implique des angles qui va dépendre des paramètres apparaissant lambda phi, de la dimension, etc. Mais il se fait que ça se tout conspire pour obtenir des entiers ici, MIJ. C'est une première indication qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais je vais m'arrêter ici parce que je pense que je ne vais pas précipiter dès l'heure. Mais donc, peut-être pour indiquer un peu la direction générale, pourquoi je parle des groupes de Coxeter ? C'est parce que les groupes de Coxeter sont précisément les groupes de réflexion qui apparaissent en gravitation. Et c'est des groupes hyperboliques parce qu'on a vu que l'espace naturel, l'espace des facteurs d'échelle est un espace de Minkowski. Et donc, puisqu'il y en a un de trop, donc il faut projeter sur l'espace hyperbolique. Et donc, on va avoir des réflexions dans l'espace hyperbolique. Donc, c'est un groupe de réflexion dans l'espace hyperbolique, qui est un groupe de Coxeter. Et donc, on va apparaître des groupes de Coxeter hyperboliques. Donc, je vais développer plus avant la théorie la fois prochaine, et en particulier montrer comment c'est relié au groupe de Weyl d'algèbre de Kac-Moody hyperbolique. Parce que non seulement c'est des groupes de Coxeter, mais on va voir qu'ils ont des propriétés supplémentaires. Donc, on peut parler de groupes de Coxeter cristallographiques, par exemple, qui préservent un réseau. Ce n'est pas garanti ici, parce que MIJ pourrait être égal à 5, 17, enfin bon... n'importe quoi. Pour que ça préserve un réseau, les MIJ doivent être des entiers bien particuliers. Vous avez dû voir en cristallographie, 2, 3, 4, 6. Et c'est les seuls qui apparaissent en gravitation. Et donc, tout ça, je vais développer la semaine prochaine. Et donc, la motivation, c'est que je développe ce bagage mathématique relativement élémentaire, hein, parce que c'est précisément la structure qui apparaîtra la semaine prochaine. Et on essaiera de voir ce à quoi ça conduit la semaine d'après. Et puis finalement, il ne me reste plus que 2 leçons. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, je vous rappelle, j'ai ici une liste de références pour chacun des sujets traités au cours. Vous êtes libre de vous servir. C'est là pour vous. Ça va ? On va arrêter ici.